France Inter.
Bienvenue à tous à la une de ce 13h. Le musée du Louvre cambriolé ce matin. 7 minutes pour dérober des bijoux d'une valeur inestimable dans deux vitrines. Les cambrioleurs ont utilisé la nacelle d'un camion. Nous serons en direct sur place. Des malfaiteurs chevronnés repartis en scooter, précise le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, invité de France Inter, il y a quelques minutes. À la une également, le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ce matin, Israël a lancé 2 frappes sur l'enclave. Nous serons en direct de Jérusalem. Quelle feuille de route pour le budget 2026 en France. Les députés commenceront à y travailler demain en commission à l'Assemblée et ce matin encore, le gouvernement prône le compromis. Pour le reste, nous irons à la Coupe d'Europe de la boulangerie artisanale, c'est à Nantes, et nous lèverons les yeux au ciel pour suivre les grues qui traversent la France en direction du sud. Le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, avec une perturbation qui balaye le pays d'ouest en est.
Oui Eric, la pluie tombe sur la plupart des régions cet après-midi, tout ça sous des températures bien douces.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Le Louvre, braqué donc ce matin à l'ouverture. Il n'y a pas de blessés. C'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a donné l'information à 10h30 ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était sur place ce matin, juste avant de se rendre à France Inter, où il était l'invité il y a quelques minutes de l'émission Questions politiques d'Alexandra Ben Saïd. Le ministre a précisé qu'il y avait 3 ou 4 braqueurs.
Des individus sont pénétrés par l'extérieur du musée du Louvre en utilisant une nacelle donc qui était positionnée sur un camion. Donc ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. Puis ils se sont ensuite enfuis, ça a duré 7 minutes, hein, donc ils sont repartis en T-Max.
En scooter, T-Max.
Ouais. Hein, oui. C'est un braquage important, manifestement une équipe qui avait fait des repérages. On sait très bien qu'il y a une grande vulnérabilité dans les musées français. D'ailleurs, il y a un plan de sécurité qui a été lancé par la ministre de la Culture. Mais il ne faut pas non plus laisser toujours à penser que les risques zéro n'existent pas sur ce type d'action. Une équipe chevronnée, équipée, c'est une volonté très forte, évidemment, de l'ensemble des membres du gouvernement, du président de la République, qu'on retrouve très vite. C'est bien, qui ont une valeur inestimable, je le redis, inestimable.
Et ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, il y a quelques minutes sur France Inter, les malfaiteurs ont utilisé de petites disqueuses. Le ministre qui n'a pas voulu dire s'il y avait d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité. Ce braquage a donc eu lieu dans la salle Apollon du Louvre, là où sont exposés les bijoux de la couronne. Faustine Calmel, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
Eh bien le musée n'a même pas eu le temps d'ouvrir ses portes ce matin.
Non, laissant sur le carreau des visiteurs surpris et déçus. Et l'image d'ailleurs ce midi est rare. La cour du Louvre et les abords de la pyramide entièrement vides. Un large périmètre a été bloqué de la rue Balise partout et des policiers bien en peine pour expliquer la situation aux touristes.
Touristes, non?
Oui.
You speak English?
Just a bit.
The museum is closed, okay?
It's closed. It's
closed for today.
Des touristes français en ce premier week-end de vacances de la Toussaint, mais vous l'entendiez, étrangers aussi très nombreux, qui se contentent donc de quelques selfies et photos en extérieur, comme Anna venue d'Angleterre.
We plan to go to the Louvre to see the Mona Lisa.
On prévoyait d'aller au Louvre, voir Mona Lisa et les expositions, et puis on a réalisé, oh mon Dieu, tellement de policiers ici. Je cherche des infos sur mon téléphone. Je viens de dire que c'est un vol. On est vraiment choqués. Je suis bouleversé.
Et le musée qui va donc rester fermé toute la journée.
Et une enquête est ouverte pour vol en bande organisée, Faustine.
Une enquête confiée à la brigade de répression du banditisme. Une brigade, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé sur France Inter, au taux d'élucidation très élevé, plus d'une affaire sur deux. Dans ce cas précis, en plus, il s'agit de bijoux, certes à la valeur inestimable, historique, patrimoniale, mais quasi impossible à revendre sur le marché de l'art.
Voilà donc pour cette version moderne de ce Belphégor, 60 ans après cambriolage au musée du Louvre. Ça a pris 7 minutes. Des bijoux dérobés, donc d'une valeur inestimable, à 10 ce matin sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. L'actualité, c'est aussi le Proche-Orient. Les États-Unis affirment détenir des informations crédibles concernant une attaque imminente du Hamas contre des civils à Gaza. Cette attaque planifiée contre des civils palestiniens, si elle se confirme, serait donc une violation du cessez-le-feu et compromettrait les récents progrès. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. Un cessez-le-feu d'autant plus fragilisé que l'armée israélienne a lancé ce matin 2 frappes au moins dans la bande de Gaza.
Et oui, tout cela montre la précarité extrême de ce cessez-le-feu en place depuis une semaine. En ce moment même, l'armée de l'air israélienne dit avoir mené des frappes après que des hommes armés ont ouvert le feu sur un véhicule d'ingénierie militaire à Rafah. Des tirs nourris de la marine ont également été rapportés par des sources palestiniennes. Des consultations sécuritaires d'urgence ont été convoquées par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et l'extrême droite israélienne appelle à la reprise des combats sans plus attendre. Alors à cela s'ajoutent donc ces accusations américaines selon lesquelles le Hamas prépare une attaque contre des civils à Gaza. Des allégations qui ont été transmises par le département d'État américain au pays garant de l'accord, menaçant de mesures si l'attaque imminente se concrétisait. En réponse, le Hamas a affirmé que les faits sur le terrain démontrent le contraire et accuse les forces israéliennes d'avoir créé et armé des bandes criminelles responsables de meurtres et du pillage de l'aide humanitaire. Le Hamas justifie l'action de sa police comme un devoir national.
Et concernant le calendrier de cessez-le-feu, Michel, Benjamin Netanyahou en a reprécisé les contours hier soir et il a insisté sur le fait que cela passera obligatoirement par le désarmement du Hamas.
Oui, Netanyahou ne donne que rarement des interviews en hébreu aux médias israéliens, exception donc hier soir, mais cela s'est produit sur une chaîne de télé privée ouvertement pro-gouvernementale. Alors à retenir, le premier ministre israélien affirme que la guerre avec le Hamas prendra fin une fois achevée la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza. Une seconde phase qui comprend également le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, dit Netanyahou, qui sait très bien que le Hamas n'est pas d'accord. Et en réponse à une question, il proclame son intention de se représenter aux prochaines élections. Benjamin Netanyahou est Premier ministre en Israël depuis plus de 18 ans, avec quelques brèves interruptions.
Benjamin Netanyahou qui va se représenter, c'est ce qu'il veut, avec le soutien de l'Américain Donald Trump. Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Le président colombien Gustavo Petro dénonce une violation de son espace maritime, l'espace maritime de la Colombie, violation par les Américains. Washington explique qu'il s'agit en fait d'une vaste opération militaire contre les narcotrafiquants dans une partie de la Caraïbe. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Eric.
Rédaction internationale de Radio France. Depuis début septembre déjà, les Américains ont déployé 7 navires, également des avions furtifs de combat pour une demi-douzaine de frappes qui ont fait au moins 27 morts.
Et parmi ces 27 morts, selon le président colombien de gauche, Gustavo Petro, il y aurait au moins un innocent, un simple pêcheur dont le bateau aurait été pris pour une embarcation de narcotrafiquants. C'était le 15 septembre dernier et donc ce bateau a été coulé sans aucune autre forme de procès par un avion américain. Bogota parle d'un assassinat, d'une violation donc de ses eaux territoriales, des accusations très graves. Mais quand on l'interroge sur la légalité de ces opérations militaires, l'administration Trump, elle, répond qu'elle est en guerre ouverte avec les trafiquants de drogue qui, selon elle, sont liés au régime vénézuélien de Nicolas Maduro. Mais les Américains, il faut bien le dire, peinent à en apporter la preuve, d'autant que l'opioïde fentanyl qui serait transporté par les bateaux et les sous-marins, même artisanaux détruits en mer des Caraïbes, cette drogue est plutôt importée aux États-Unis, on le sait, par la terre, par le Mexique. Alors pour une fois cette semaine, il y a eu 2 survivants à l'une de ces frappes américaines. Washington, sous la pression, a accepté de les rendre à leur pays d'origine, hein, l'Équateur et la Colombie. Et là, ce sont des juges de ces 2 pays désormais qui diront si les soupçons portés sur ces 2 hommes par les États-Unis étaient avérés ou non.
Camille Magnard, rédaction internationale de Radio France. Elle avait créé le programme Erasmus européen en 1987. L'italienne Sofia Corradi est morte à Rome. Elle avait 91 ans. Erasmus a changé la vie de millions de jeunes étudiants en leur permettant d'aller s'inscrire dans d'autres pays européens. À Bruxelles, correspondance d'Elsa Lossuarne.
Sofia Corradi n'a que 23 ans lorsqu'elle obtient une bourse en 1957 pour étudier le droit pendant 1 an aux États-Unis. Un Erasmus avant l'heure qui vire au casse-tête administratif. À son retour à Rome en 1958, impossible de faire reconnaître son année d'études et la maîtrise obtenue là-bas par l'administration de son université italienne. Elle doit repasser des examens à l'université de Rome, obtient finalement son diplôme italien et se tourne vers une carrière d'avocate. Mais cette déconvenue lui inspire ce qu'elle appelait le projet de sa vie. Elle se donne pour mission de créer un socle légal pour permettre la reconnaissance des séjours d'études à l'étranger et ouvrir ses voyages aux étudiants des classes moyennes. Nommée conseillère scientifique de la conférence des recteurs d'université dans les années 60, elle rédige un mémorandum sur le sujet très remarqué en 1969, tandis que son poste lui permet de se tisser un réseau dans toute l'Europe pour présenter son projet. En 1987, son combat aboutit enfin avec la création du programme Erasmus. Presque 40 ans plus tard, 16 millions d'étudiants du continent ont pu bénéficier du programme pour faire leurs études dans un autre pays d'Europe.
Elsa Lossuan, correspondante de France Inter à Bruxelles.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Mais quel budget 2026 pour la France? Les députés vont commencer à rentrer dans le dur demain en commission et ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Brigeon, en a appelé au compromis pour que ce futur budget ne soit pas celui du gouvernement, mais bien celui du Parlement. Un argument qui ne convient toujours pas au président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour l'insoumis, Éric Coquerel, l'objectif reste de renverser ce budget.
Je ne pense pas cette fois-ci que nous allons réussir à imposer un budget dit NFP compatible. Mmh. On l'a essayé il y a un an, on y était arrivé dans les amendements, on s'aperçoit qu'après il y a eu un espèce de bloc réactionnaire qui a empêché de le faire. Et puis depuis un an, on a l'habitude, c'est que ce gouvernement, et le pouvoir macroniste ne veut rien lâcher par rapport à ça. Aussi, une autre problématique, c'est que le NFP arrive moins soudé, moins uni, puisque il y a un an, les socialistes, avec nous, avaient voté la censure de Monsieur Michel Barnier avant qu'on engage le débat. Là, ça n'a pas été le cas. Bon. Donc, on va jouer notre travail de parlementaire, nous on le fait toujours, France Insoumise, pour essayer de modifier ce budget. Je ne crois pas qu'on y parviendra dans le cadre d'un budget que nous pourrions du coup voter. Et donc l'objectif, je vous le dis très clairement, ça va être de battre ce budget parce qu'il n'est pas bon pour le pays.
Le président de la commission des finances de l'Assemblée, l'insoumis Éric Coquerel. Ce budget 2026 prévoit des coupes budgétaires dans l'apprentissage. La prime versée aux employeurs lorsqu'ils recrutent un alternant, cette prime va diminuer. Et par ailleurs, l'aide de 500 euros pour passer son permis de conduire sera supprimée. Autant de coupes budgétaires qui inquiètent les chef d'entreprise. C'est ce qu'a constaté Jules Douai au Mans lors du salon Big Bang de l'emploi organisé par la région Pays de la Loire. Reportage.
Des jeunes avec un CV et une lettre de motivation à la main font la queue devant le stand d'Angéline Guillard. Pour la première fois, cette responsable d'une entreprise de service à domicile a revu ses habitudes de recrutement.
On va faire avec. On va s'adapter en fait. On a pris une seule alternante commerciale pour les quatre entreprises. Peut-être que ce sera ça par la suite s'il faut diminuer un peu.
Antonin Couvreux va lui aussi devoir s'adapter. Il est recruteur pour une agence de rénovation de l'habitat qui compte trois alternants.
On sait que le coût d'alternance, moins on a d'aide, plus c'est compliqué de recruter parce que les agences, ils ont un budget et il faut le respecter.
Ces coupes budgétaires, notamment la suppression d'exonération de cotisations sociales en faveur des apprentis, vont surtout impacter les petites et moyennes entreprises, comme l'explique Adeline Piffre, responsable recrutement.
Si demain il n'y a plus d'aide pour les entreprises ou l'investissement financier est plus important, ça peut tout à fait rebuter des petites structures qui ont des budgets pour le recrutement qui est moindre forcément que des gros groupes.
Sur le stand d'à côté, Alix Forner est alternante depuis 3 ans dans un groupe automobile. Elle est bien contente de ne pas devoir trouver une alternance dans le contexte actuel.
Quand je vois par rapport à ma classe, il y en a beaucoup qui ont pris du temps à trouver une alternance pour cette année.
C'est quelque chose qui vous feriez peur aujourd'hui de trouver une alternance?
Oui, complètement.
Cette année, la région Pays de la Loire compte plus de 65 000 apprentis.
Un reportage Jules Jouet ici mène. Et malgré les remous politiques, quelques travaux parlementaires restent sur les rails. C'est le cas de la nouvelle définition pénale du viol. La proposition de loi sera examinée mardi en commission mixte paritaire. La loi va intégrer la notion de non-consentement dont on a parlé lors de l'affaire Pénicaud. Exemple, avec ce texte porté par deux députés, l'écologiste Marie-Charlotte Garin et la macroniste Véronique Rioton, Louise Buyens. C'est un changement de la loi très attendu.
Et notamment par les victimes de viols comme Clara Achour qui entrevoit l'issue d'un long combat.
Ça peut vraiment permettre de condamner des auteurs là où actuellement on l'entend encore trop souvent et ça a été le cas pour moi. Il y a eu en effet un rapport non consenti, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas condamner là-dessus. Moi, j'étais complètement sidérée et j'ai essayé de mettre fin à mes jours immédiatement.
Les 4 critères actuels de la définition du viol, violence, contrainte, menace ou surprise, seront toujours présents dans la loi, mais la nouvelle définition pénale parlera désormais de tout acte sexuel non consenti. Une description beaucoup plus précise, explique Marie-Charlotte Garin, députée écologiste qui a coécrit le texte.
Toutes les victimes qui diront « moi, je ne peux pas prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise », eh bien, en venant affiner en fait ce qu'est le non-consentement, on leur permet en fait une meilleure reconnaissance aussi en droit.
Certaines associations féministes pointent le risque d'obliger les victimes à prouver la contrainte. Mais pour la députée, ce sera bien aux mises en cause d'expliquer comment ils se sont assurés du consentement. C'est ce qu'il se passe en Espagne, Suède et Norvège notamment, pays qui ont déjà intégré la notion de consentement dans leur droit. Et selon Marie-Charlotte Garin, ils enregistrent plus de plaintes et plus de condamnations des auteurs.
Voilà, ce non-consentement dont on avait pas mal parlé lors du procès des viols de Mazan avec Gisèle Pellicot. Autre dossier parlementaire, celui sur la fin de vie. Tout devra être tranché avant l'élection présidentielle de 2027. C'est ce que dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France. L'enquête sur le meurtre d'un chrétien d'Irak en septembre à Lyon. On apprend aujourd'hui que les 5 personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuite à ce stade. Elles étaient toutes liées et en contact avec l'homme qui est suspecté de ce crime. Cet homme qui avait été interpellé en Italie. Parmi les rendez-vous sportifs du jour, le tennis de table France-Roumanie en finale du championnat d'Europe qui se déroule en Croatie. Des Bleus emmenés par Félix Lebrun et Simon Gauzy, et ils peuvent raisonnablement espérer reconquérir ce titre européen qui leur échappe depuis 1998, Jean-Pierre Blimeau.
27 ans se sont écoulés depuis le dernier titre européen, mais cette fois les Bleus peuvent raisonnablement afficher leurs ambitions. En demi-finale, dans une sorte de finale avant la lettre, ils ont disposé de l'Allemagne qui avait disputé les 12 dernières finales de l'épreuve. Qui plus est, les Français ont su inverser la tendance, mener 1-0. Une victoire de Simon Gauzy et 2 succès de Félix Lebrun ont envoyé les tricolores en finale. Le cadet des frères Lebrun battant d'ailleurs l'un des tout meilleurs joueurs du monde, Bénédicte Douda. Et voilà le clan tricolore face à la Roumanie, qui est un peu l'invité surprise de cet Euro par équipe, car les Roumains, depuis leur succès inattendu face aux Suédois en quart de finale, font figure de sérieux outsiders. Mais les tricolores partiront favoris et ils savent qu'ils peuvent compter notamment sur un Félix Lebrun intraitable, le plus jeune des deux frères, à remporter les 7 matchs qu'il a disputés cette semaine.
Voilà, et début de la finale de tennis de table, ce sera à 17h en Croatie. Le Grand Prix de France de patinage artistique, ça se passe à Angers en ce moment. Médaille d'or en danse ce matin. Médaille d'or sur danse sur glace pour Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry. C'était leur première compétition internationale et c'est plutôt une bonne nouvelle. À quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Voilà une compétition qui n'a rien de sportive, quoique la Coupe d'Europe de boulangerie artisanale. C'est en ce moment à Nantes, au Parc des expositions La Beaujoire. Parmi les candidats, le français Rémi Cloarec, boulanger depuis 27 ans, déjà vainqueur de la Coupe de France de la boulangerie en début d'année. Rémi Cloarec fait partie des 3 Français qui représentent la France. Et ils se sont beaucoup entraînés pour remporter cette compétition, Morgane Guillaumard.
Ce patron a délaissé depuis des mois sa boulangerie à Saint-Herblain pour s'entraîner.
C'est des centaines d'heures, c'est plusieurs plans, donc on fait tout comme le jour J.
Rémi Cloarec a 2 coéquipiers. L'un qui travaille le pain, l'autre les viennoiseries et lui la pièce artistique.
Déjà on travaille l'esthétique pour rester sur le thème, mais surtout le goût. On va pousser au plus loin nos connaissances et sans divulguer, on va aller fumer des farines pour leur donner une odeur particulière, torréfier certaines graines, faire des alliances entre des farines légumineuses.
Le thème à respecter, c'est Carnaval en Europe. Il va donc réaliser une femme avec une tour Eiffel sur l'épaule et un masque de bal, comme on peut en voir au Carnaval de Venise. Une sculpture colorée réalisée avec uniquement du pain.
Donc aucune armature et qu'elle fasse 1 mètre de haut et 60 cm de large.
Il a espoir de convaincre le jury.
Que ça fasse waouh.
C'est une étape importante pour ce boulanger de 42 ans, champion de France cette année.
Ça fait quand même 20 ans que je vais au Serbotel et que je vois tous ces boulangers à cette Coupe d'Europe. Et donc c'est un rêve qui se réalise. Cette fois c'est la nôtre et j'espère aller jusqu'au bout.
Il espère d'ailleurs être encouragé et applaudi puisque la Coupe d'Europe de boulangerie est ouverte au public.
Reportage ici Loire-Océan. Avant le point météo, si vous avez levé les yeux au ciel, peut-être avez-vous remarqué que les grues arrivent. Exemple en Champagne, au lac du Der. Ici, l'étape a tendance à se prolonger car il fait bon vivre au lac du Der. d'autant que les grues y trouvent facilement à manger. Écoutez ce qu'en dit Clément Étienne, ou plutôt Étienne Clément, dans le bon ordre. Il est le président de la Ligue pour la protection des oiseaux Champagne-Ardennes.
Autour du lac du Lair, avant, c'était un bocage, donc c'était des haies avec des prairies, ce qui n'est pas très intéressant pour elles. L'agriculture s'est beaucoup transformée avec des cultures comme le maïs, des cultures céréales. Ben c'est très, très favorable pour elles parce que c'est des ressources alimentaires pour elles. Donc aujourd'hui, il y en a entre 15 et 20 000 qui restent tout l'hiver, c'est-à-dire qu'elles ne font plus leur migration complètement. Au petit lever du jour, elles vont décoller pour aller dans les cultures environnantes jusqu'à 30, 40 km autour du lac du Lair, pour aller trouver leur nourriture. Et le soir, elles vont revenir à partir de 16h. Ça va se gêner entre 16h et 18h. Et elles reviennent sur le lac du Lair pour y faire des dortoirs et y dormir.
Le président de la LPO Champagne-Ardennes au micro de Ici Champagne-Ardennes. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Magali Rouchereau.
Bonjour Eric.
Eh bien les pluies se généralisent.
Oui, cet après-midi elles sont faibles à modérées sur une bonne moitié ouest du pays, pendant qu'à l'arrière, au-dessus de la zone nord-ouest, le ciel redevient plus variable entre éclaircies et averses passagères. Côté façade est aussi, au fil des heures, vous voyez les nuages s'installer. Et ce soir et cette nuit, la pluie va progresser du nord de l'Aquitaine et du Massif central jusqu'au nord-est. En marge de cette perturbation, autour du golfe du Lion, les entrées maritimes s'épaississent et la pluie arrose les Cévennes, poussées par un vent de sud-est jusqu'à 70 km par heure, pluie qui s'étire plus faiblement en soirée de l'Hérault jusqu'au Var. Près des Pyrénées, le ciel reste chargé aussi, sous une ambiance très douce avec le vent de sud.
Oui, très douce d'ailleurs, les températures montent partout.
Et oui, la douceur gagne jusqu'à la moitié nord, les maximales varient entre 15 et 20 degrés au nord et à l'intérieur du sud-est. Comptez 16 degrés à Chartres, 17 dans la capitale comme à Dijon et 20 à Lyon, entre 20 et 23 degrés près de la Méditerranée, 22 à Toulon, 23 à Ajaccio et entre 21 et 26 sur le sud-ouest.
Les prévisions de Magali Rochereau.